déménage les meubles. Merci beaucoup à Yoann et nos musiciens, nos choristes, de nous avoir conduits dans ces chants qui, je pense, étaient très, très à propos. Alors, bienvenue à tous. Fait chaud au cœur de vous voir ce matin, en cette journée internationale de la femme. Vous savez, lorsqu'on a fait la planification et qu'on a choisi ce thème pour le dimanche, c'était pas vraiment dans le calendrier. On n'avait pas vu que, tu sais, on voit la fête des mères, la fête des pères, Pâques, tout ça, mais la Journée internationale de la femme a comme passé en dessous du radar, et puis et voilà. Sujet qu'on pourrait dire assez intimement relié. Donc, on m'a dit que quand on devient chrétien, on n'a plus le droit de croire aux coïncidences. Alors, le Seigneur fait toutes choses à sa façon. Et nous voici ce matin par rapport à un sujet que j'avais à cœur depuis bien des mois et que j'ai maintenant le privilège de vous présenter ce matin. Alors, premièrement, je veux rassurer l'auditoire. Les gens qui sont ici et qui ont accès au diaporama, évidemment, parce qu'il y en a qui vont écouter peut-être via notre site Internet. Il n'y a pas de photos choquantes, parce que souvent, lorsqu'il y a une présentation qui est ciblée sur le thème de l'avortement, parfois, on veut vraiment saisir l'auditoire de l'horreur du phénomène, etc. Donc, on y va peut-être avec des images ou même des récits qui peuvent être troublants, et ça l'est, Mais ce n'est pas mon but ce matin. Je voulais plutôt concentrer mon effort sur la question de la vie. Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce si important pour nous? Pourquoi est-ce si précieux? Et je voulais vraiment me concentrer sur le caractère sacré de la vie. Et ce n'est pas une expression qu'on dit souvent en français. Les anglophones l'utilisent beaucoup dans leur discours, hein, « the sanctity of life », hein, le caractère sacré de la vie. Et je veux aussi faire une confidence, parce que ça, là, c'est un sujet que je trouve extrêmement difficile à traiter, surtout publiquement, parce que moi, j'ai appris avec le temps qu'on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas à qui on parle. Et faut faire très attention de la façon dont on apporte le sujet. Et on marche souvent sur des œufs. Et moi, je vous le dis en toute humilité ce matin, là, je ne suis vraiment pas qualifié pour parler de l'avortement. Premièrement, je suis un homme. Ça ne m'est jamais arrivé, puis ça ne m'arrivera jamais. Hein? Surtout personnellement. Mais aussi que ça nous est jamais arrivé comme couple, parce que c'est des choses qu'on vit en couple aussi, en famille. Donc, pour moi, c'est très difficile d'amener cela, mais je suis conscient du fait qu'il y a énormément de souffrance qui est reliée à ce phénomène. Et souvent, il y en a qui me l'ont demandé, ils ont dit, « Pourquoi, Stéphane, tu t'es intéressé à la question de l'avortement? » Et c'est par mon implication avec le Centre Conseil Grossesse de Trois-Rivières, et ça, je vais y revenir. Mais c'était pas pour. Vous voyez, là, c'était pas la question de la vie des petits bébés, parce que souvent, c'est ça qui va nous interpeller, premièrement. Mais pour moi, ça a été le fait que j'ai découvert que, suite à l'avortement, des femmes et des couples souffraient énormément de ce phénomène, de l'acte, du geste qui avait été commis. Et moi, ça m'a interpellé énormément, et c'est un peu de cette façon-là que je suis entré dans l'engrenage. Alors, voilà. Par rapport au caractère sacré de la vie, eh bien, c'était une porte ouverte pour moi pour démontrer l'importance, la primauté de la vie. Quand on dit sacré, hein, parce qu'au Québec, hein, sacré, c'est d'autres choses, mais sacré, selon le Larousse français, hein, c'est qui appartient, le nom, l'adjectif, qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable du religieux, et qui doit inspirer crainte et respect, à qui l'on doit un respect absolu qui s'impose par sa haute valeur. Des synonymes, hein, révéré, sacro-saint, vénérable. Hein, comme on dit, hein, la vie, le don, un don si précieux. Hein, on est tous d'accord avec ça. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe quand le monde nous amène, ils nous prennent par la main, là, puis ils nous attirent dans leur petite ruelle sombre et on se met à penser différemment. On se met même à penser comme eux. On perd, moi je pense qu'il y a une perte de repères. On perd nos repères par rapport à la question. Alors, je vous présente ce matin trois catégories de personnes qui sont en danger. Hein, le premier ici, là, qui est à droite, lui, il n'a plus de qualité de vie. Le monsieur au centre, lui, il n'a vraiment pas de qualité de vie. Et puis l'autre à gauche, je ne suis pas capable de dire si c'est un gars ou une fille, mais lui, il n'a pas de vie. Rendez-vous le discours? Pas de qualité de vie, pas de qualité de vie. Lui, bien, il ne vit pas encore. Hein? En termes de discours que vous entendez. Alors, c'est... Et puis en passant, le monsieur au milieu, c'est un chrétien. C'est un évangéliste de réputé mondial. Son nom est très difficile à prononcer, là, Nick Vujicic. Et lui, il parcourt le monde à annoncer l'Évangile en donnant un message d'espoir que même en n'ayant pas, semble-t-il, de qualité de vie, ni bras ni jambes, on peut être porteur d'un message extraordinaire et avoir une influence dans la vie des gens. Alors, il y a un livre, je crois, même de disponible à la table, hein, Robert, sur témoignage de ce monsieur-là, donc c'est intéressant. Alors, une chose qu'il faut être prudent aussi, c'est la question du militantisme. Parce que lorsqu'on parle avortement, évidemment, on rentre dans le discours pro-vie, pro-choix. Hein, ça, on connaît tout ça et on a souvent entendu ça. Et il faut faire attention parce que ça soulève des passions et cette passion-là va se transformer en fanatisme. Et c'est un fanatisme qui est extrêmement dangereux, qui amène le fait qu'on coupe. Le problème, c'est qu'on coupe la communication avec nos interlocuteurs, avec les personnes avec qui on essaie de passer un message. Et lorsqu'on tombe dans le fanatisme extrême, parce qu'il y a des discours extrêmes dans les deux cas, même, je dirais, il y a des gestes extrêmes. Okay? On peut être pro-vie, mais ça ne justifie pas d'aller faire exploser une clinique, hein, ou d'aller assassiner ceux qui y travaillent. Il y a déjà assez de ce qui se passe en dedans de façon journalière, il ne faut pas en rajouter. Donc, il y a du fanatisme des deux côtés et il faut être très prudent. Et aussi, faites attention au langage, on parle de pro-vie, pro-choix, lequel on est, nous autres, tu sais, on dit, êtes-vous pro-vie, vous autres? On me pose souvent la question. Faites attention, parce que il y a, dans le monde, dans la société, il y a un pro-vie, moi je l'appellerais le pro-vie politique. Hein? Il y a un pro-vie qui a un agenda politique et religieux, et puis il y a un pro-vie biblique. Et moi, ce matin, je veux rester au niveau du pro-vie biblique. Parce que la question de pro-vie, lorsqu'on s'identifie à un mouvement ou à un autre, ça peut être dangereux. Et depuis le temps que je me fais poser la question, pro-vie, pro-choix, je leur explique, je dis, ben non, quand j'ai le temps de l'expliquer, je dis, moi, il faut que je me pose la question, est-ce que le Seigneur Jésus était pro-vie ou pro-choix? Attention, lorsqu'on y pense. Moi, je vous dis, là, j'ai la conviction que Jésus, il accueillerait une femme qui a vécu l'avortement, il l'accueillerait parce qu'il sait qu'elle souffre et il voudrait en prendre soin. Alors, en faisant ça, vous savez que les pro-vie extrêmes, ils diraient, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il s'est fait avorter. Wesh! Il ne serait même pas supposé y parler. Vous voyez, il y a des pro-vie extrêmes qui réagiraient de cette façon-là. Et d'un autre côté, après en avoir pris soin, l'avoir consolé, guéri son cœur, il dirait, va, mais refais n'est plus. Ah! Là, il se mettrait tous les pro-choix à dos. Les pro-choix disent, tu ne peux pas lui dire ça. Elle a choisi l'autre fois, il faut qu'elle choisisse. Voyez-vous? Donc, faites attention à ça. Donc, moi, souvent, je leur réponds, juste pour lancer l'étincelle, je dis, ben, ça dépend. Moi, je suis un pro-vie biblique. Je ne suis pas un pro-vie politique. Oh, là, souvent, là, ça amène le discours, ça amène le débat à un autre niveau. Alors, est-ce qu'on a une passion pour la vie ou on a une passion pour le choix? On ne peut pas avoir une passion pour le choix. On a comme tous le choix. Tout le monde a le choix. J'ai une passion pour la vie. Je choisis la vie ou je choisis la mort. C'est ça que je fais là. Tout le monde a un choix. Choisis un ou choisis l'autre. Lequel je prends? Hein, j'arrive là, pain brun, pain blanc, 14 céréales. Là, Starbucks de peanut, Nutella. Quand je passe au geste, par exemple, tu sais, quand j'étais à mon beurre de peanut, ça tosse, là. Puis je me suis trompé. Tu sais, c'est un geste irréparable. Là, j'aurais beau gratter là, ma tosse, là, mais je mets de la confiture de fraises. Il va trouver un petit bout de beurre de peanut en arrière, là. Tu sais, c'est rentré dans le pain, là. Donc, on fait des choix, mais à un moment donné, lorsqu'on passe, hein, on peut en faire, mais jusqu'où on va aller dans notre geste après avoir fait le choix. Et parfois, c'est impossible de retourner en arrière. Écoutez ça, là, on pourrait en sortir des chiffres et on entend. Écoutez bien ça, là, depuis 1974, on parle, ça, c'est un chiffre là, vraiment amené là, par l'Organisation mondiale de la santé, mêlé avec d'autres sources, tout ça. Mais grosso modo, on parle d'une soixantaine de millions d'avortements depuis 1974. Et ça, ceux qui sont friands des statistiques, là, c'est 3 500 par jour, 140 à l'heure. Okay? C'est de la production. Là. Mais on va y aller avec des sources plus fiables, parce que ça, c'est vraiment des chiffres approximatifs. Mais moi, je me dis, là, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, mais quand on est rendu dans des millions, dans des dizaines de millions, hein, selon l'Institut canadien d'information sur la santé, au Canada, en 2011, ce sont les derniers chiffres disponibles, donc on parle de tout près de 65 000 au Canada. Et le Québec a la part du lion dans ça, avec tout près de 25 000. Et ce qui est intéressant, c'est regarder les tranches d'âge. J'ai choisi ces deux-là, de 15-19 ans, 4447. Et on aurait tendance à dire, ah ouais, tu sais, les jeunes, ça fait des affaires, ça réfléchit pas. Oups, on regarde les 30-34. Intéressant. Hein? Autant. L'âge moyen, 27 ans. C'est pas 15, 16, 17 ans. Dans le milieu de la vingtaine. Tout un phénomène. Regardez ce que dit Mme Francoeur, médecin, qui est vice-présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Qui dit, hein, le taux important d'avortement chez les femmes de plus de 30 ans témoigne du peu d'attention qu'on leur a accordée. On les a abandonnées. On ne s'est pas occupé d'elles. Dr. Francoeur note que ces femmes âgées sont de la génération vasectomie. Leur conjoint est vasectomisé et lorsqu'une rupture survient, et on sait qu'il y en a beaucoup, elles ont perdu l'habitude de la contraception et c'est dans le top 10 des raisons. Il y a aussi chez elles la peur de la pilule contraceptive, de ses incidences perçues sur le risque de cancer. C'est juste pour montrer qu'il y a bel et bien un phénomène qui n'est pas ciblé à un groupe d'âge, mais que c'est vraiment étendu beaucoup plus large. Il y a plein d'autres exemples. Mais heureusement, ça c'est dans la société, pas dans l'Église, là. Ça se passe pas dans l'Église, ça. Chez les chrétiens, on n'a pas ce problème-là, hein? Ça n'arrive pas, ça. C'est comme le reste. Tu sais, dans la société, on regarde, tu sais, il y a des divorces, il y a de l'adultère, il y a des dépendances, toutes sortes de dépendances. Non. Sachons-le. L'Église, malheureusement, l'Église est une tranche. On est une tranche de la société et on a notre part. On a notre part de cette souffrance-là à l'intérieur de l'Église. Sachons-le. Mettons pas la tête dans le sable par rapport à cela. Et je ne dis pas ça pour commencer à pointer du doigt dans la salle ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est pas l'idée. C'est principalement pour qu'on soit conscient que dans l'Église aussi, il y a énormément de souffrance par rapport à cela. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? C'est comme un phénomène implacable, là, que ça balaye la planète Terre, et c'est comme ça. Est-ce qu'on peut-être, sans essayer d'arrêter le phénomène, parce qu'on ne sera pas capable, de se concentrer sur ceux qui souffrent. Que ce soit avant ou après le geste, il y a de la souffrance. Le problème quand on rentre dans le débat, et que je parlais tantôt, c'est qu'il y a comme une espèce d'hypnose qui commence. Si on rentre dans le débat au niveau du monde, de la société, on va vous faire accroire plusieurs choses. Et vous savez que dans ça, il y a comme des faussetés vraiment là, vraiment faux, vraiment pas vrai. Et il y a des choses qui sont comme vraies, mais ça l'enrobe bien ce qui n'est pas vrai. Alors, seriez-vous détecté là, qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai dans ça? Hein? On dit, hey, il n'y a pas de bébé. Hein? Dans le ventre de la maman, c'est pas un bébé. C'est le discours qui revient. Il n'y a pas de bébé. Il y a aussi le fait que, c'est le progrès médical. Parce que, veut pas, il va toujours en avoir. C'est immanquable, il va toujours avoir une clientèle. Le cœur de l'homme est fait ainsi. C'est vrai. Alors là, on va mettre en place des procédures médicales qui sont sécuritaires, accessibles, faciles, sans risque, etc., etc. Mais là, on se dit, ouais, écoute, dans le fond, c'est bon cette affaire-là. Vu qu'il va toujours avoir une demande, on est bien mieux d'avoir des personnes qualifiées puis du bon équipement pour en faire plus, mieux, sans risque. Hein, ça paraît bien. Et également que le phénomène est sans conséquence. Et même des fois, on dit sans risque. C'est complètement faux. Ne croyez pas ça. Oui, il y a des cas où est-ce que ça va s'être passé très bien et que la personne va même dire, écoute, moi, ça a fait mon affaire et c'est comme ça. Ce sont des exceptions très rares. De tous les témoignages qu'on peut lire et l'information qu'on retrouve sur le web et l'information qui est même publique, ce n'est pas vrai. Et évidemment, l'autre, c'est un geste, la dernière est un geste justifié. Et là, on rentre dans un domaine très délicat. La question du viol, la question des infirmités. C'est vrai que c'est pas facile, ça. Et c'est là qu'on voit que c'est pas évident de trancher lorsqu'on rentre dans ce débat à brûle pour point, puis on se dit, ouais, c'est vrai que, tu sais, il y a peut-être... Alors, restons pas à nos repères lorsqu'on rentre dans de tels arguments et puis qu'on se fait hypnotiser. Moi, je vais vous confier quelque chose là, par rapport, tu sais, on a vu les statistiques et souvent, on parle de ces cas exceptionnels-là parce que c'est souvent ça l'argument qui revient. L'argument marteau de ceux qui prônent l'accès à l'avortement, etc., etc., c'est la question des exceptions. Et puis moi, là, je vais vous dire, scandalisez-vous pas, mais je vais vous dire, si même nos gouvernements disaient, écoutez, on va la rendre illégale, mais sauf qu'on va la rendre accessible pour les cas exceptionnels. OK? La question du viol, par exemple, ou la question d'infirmité. Tu sais? Pas que je suis d'accord, mais je me dis, si seulement nos autorités, là, les gens en arrivaient à ce raisonnement-là, on passerait des 60 000 à probablement quelques milliers. Même pas. Et là, je parle en Amérique du Nord. Là. Fait que ça serait-tu un bon compromis? Tu sais, je me dis, juste ça serait tout un progrès. Mais ça n'arrivera pas, là. Tu sais, son rêve en couleur. Mais si on disait, là, on va le faire, mais juste dans les cas, là, dans les cas extrêmes, là, moi, je pense que je l'achèterais juste pour qu'il y en ait des dizaines de milliers qui soient sauvés. Je le prendrais presque là, parce qu'on sait qu'il va toujours, on sait qu'il va en avoir. C'est comme de dire, là, on va arrêter le divorce, on va arrêter l'adultère, il n'y aura plus. Souvenez-vous des paroles de Jésus, hein, quand il a été confronté par les pharisiens par rapport au divorce, puis il disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Hein? Mais c'est à cause que vos cœurs se sont endurcis. C'est la même chose. C'est la même chose pour ce phénomène-là. C'est la même chose pour l'euthanasie, pour le suicide assisté. C'est le discours du monde qui rentre. C'est nos cœurs qui s'endurcissent. En gros, là, voilà ce que le monde veut faire croire. Et ça, c'est très simpliste, mais une image vaut mille mots. C'est ça qu'ils veulent vous faire croire. Voyez, là, dans le ventre de la maman, c'est ça qu'on retrouve. C'est un amas de tissus, de cellules. Ça, en fait, c'est une photo d'embryon, là, mais disons, imaginez, c'est juste un amas de tissus. Les tissus humains qui sont là, puis ça, comme ça, là, tel que vous le voyez là, ça grossit. Ça grossit. Ça part, là, gros comme ça, là. Puis là, ça vient, là, un moment donné, là, c'est gros comme un melon. Comme ça. Hein? Jusqu'à 38-39 semaines. C'est comme ça. C'est ce qu'on dit. C'est juste des tissus, on enlève les tissus, puis ça repart dans l'univers. Ça, c'est des témoignages qu'on a entendus. On disait ça aux femmes. On disait, ah, ça, mais je sais pas trop, je me sens mal, tu sais, le bébé, tout ça. Non, ça, c'est des tissus, ça retourne dans l'univers. Quand tu vas redevenir enceinte, il va revenir. Tu sais? Non, mais... Puis là, ils nous accusent des fois de nos discours religieux, etc. Hey, c'est presque occulte, leur affaire, là. Alors voilà, dans 39 semaines, c'est comme ça. Et v'là à 40 semaines, pouf! C'est ce qui arrive. Ah là, on a un bébé. Alors, c'est ça qu'on veut amener comme pensée, qu'il ne se passe rien. Mais en réalité, hein, on sait bien trop. Regardez ça, là. Entre 10 à 12 semaines, 3 mois seulement. Regardez, c'est les petits doigts, hein, des orteils, les vaisseaux, on voit les vaisseaux sanguins. Hey, il y a un cœur qui bat, il y a un système nerveux qui est tout développé, juste à 12 semaines. C'est formidable. C'est complexe. Comme Johan disait, là, toute la complexité là, biochimique qu'il y a dans ça, là, qui rentre et il y en a plusieurs qui vont l'année, vont dire, ouais, OK, c'est comme ça, mais c'est encore juste comme une machine biochimique là, qui est en place là. Ça, c'est des discours qu'on entend beaucoup. On va faire un retour en arrière et j'aimerais vous parler d'Israël, laquelle ils ont hérité d'un territoire qui était habité par des peuples qui vénéraient des dieux. On parle de Moloch, à laquelle ces peuples païens donnaient leurs enfants à Moloch, ils les passaient par le feu. Et Dieu avait dit, hein, quand tu vas rentrer sur le territoire, tu vas éliminer ces peuples-là. Parce que leur péché est rendu à leur comble. Hein, il les accusait justement de trois choses principalement. Le premier était de passer leur enfant par le feu. Le deuxième était l'homosexualité. Et le troisième, la bestialité. Ça, c'est des choses qui n'existent pas du tout aujourd'hui, là. Hein? Je suis très sarcastique, là, je suis désolé. Mais est-ce que l'Église va être séduite comme Israël l'a été? Israël a perdu sa force et son témoignage parce qu'ils ont gardé. Ils ont gardé une partie de ces peuples et ils ont été séduits par ces pratiques. L'idolâtrie à des dieux, de faux dieux, et passaient leur enfant par le feu. Peuple d'Israël, des rois. C'est pas rien. Est-ce que l'Église va être séduite? Est-ce que l'Église va perdre sa force et son témoignage par rapport à sa position? Alors, comme je disais que ça n'existait pas et que vous savez que c'est pas vrai, ça existe. Alors, je vous présente, parce que là, c'est une belle statue de Moloch. Aujourd'hui, on n'a plus de statue. On a d'autres choses. Alors, je vous présente Moloch, le Moloch des temps modernes. Voilà le Moloch des temps modernes. Ah, c'est pas le bon moment. C'est pas le temps d'être enceinte. Je suis peut-être trop jeune. Je suis encore aux études. Mais je suis enceinte. Nuisible à ma carrière. Hein, j'ai une carrière sportive où, tu sais, au travail, là, ça va impliquer un départ volontaire, je vais retourner, est-ce que je vais retrouver ma job, etc., etc. C'est vrai, non, mais tu sais, c'est des réflexions, c'est sûr, à avoir avant, mais un coup, c'est fait. Là, c'est compliqué. Mon conjoint va me mettre à la porte. Et ça, c'est classique, là. Quand on a les clientes qui viennent au centre, là, ça, là, si là, je continue ma grossesse, mon conjoint me met à la porte. Je suis dans la rue. Alors là, ça va pas bien. Ou tout simplement, je suis seul. Mon conjoint s'est volatilisé. Pouf! Il est disparu. Quand j'ai dit que j'étais enceinte, il est parti. Là, je suis seul. Je peux pas. Je pourrais pas passer à travers ça. La critique des parents, de l'entourage. Ça coûte cher un enfant aujourd'hui. Là, pas pour avoir mon enfant. Hey, j'ai pas l'argent pour ça. Etc., etc. Voilà l'autel de Moloch sur lequel, hein, au nom de la liberté, on va passer notre enfant par la procédure. Alors, chaque être humain est créé par Dieu. La conception n'est pas un accident. Alors, j'ai une série de versets bibliques. Évidemment, moi, je pense que c'est en plongeant dans la parole qu'on va être le mieux équipé, justement, pour ne pas perdre nos repères. Premièrement, OK? Premièrement, sachons que la conception n'est pas un accident. Hein? On lit un psaume de Salomon, 127, 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. C'est pas rien, là. Ce qui se passe là, c'est une récompense. C'est quelque chose que je donne à l'homme. Dieu est en contrôle des naissances. Dieu est en contrôle des naissances. Genèse 16, 2. Hein? Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Hein? « Et vois-tu, Sarah savait, je suis stérile. Dieu est en contrôle. » 16, 17. On continue dans le même... dans la même ligne d'idée, hein? Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Dieu est en contrôle. Genèse 20, 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Encore une fois, Dieu est en contrôle de cela. 25, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. 1 Samuel 1, 19, 20. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. L'Éternel se souvint d'elle. Il est en contrôle. Ruth 14, 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Paul devant les Grecs, devant cette statue du Dieu inconnu, fait un éloge extraordinaire au Dieu qui est en contrôle. Hein? Acte 17, 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, lui qui donne à tous la vie, la respiration est toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sein, habitassent sur la surface de la terre. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tu sais, Paul ne parlait pas seulement là, que ça a commencé à un moment donné, il a donné la vie là, et puis là, ça a parti. C'est comme une machine. Et puis lui, il n'avait plus besoin de s'impliquer. C'était comme indépendant, autonome. Non, 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 non. Paul parlait à ce moment-là que Dieu donnait encore la vie et encore aujourd'hui. Jean 1, 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et ça, là, si vous n'avez pas ce verset-là, ce chapitre-là, d'entouré dans votre Bible, faites-le. C'en est un qui est éloquent par rapport à qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur du bedon, comme on peut dire. Hein? Psaume 139, 13 à 16. Hein? David, qui est émerveillé par l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu, qui dit, au verset 13 à 16, hein, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. » C'est poétique, hein? Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Hein, déjà là, ça n'avait même pas de forme humanoïde et Dieu voyait David. Il voyait nous, chacun de nous. Hein, et Dieu nous voyait. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Même chose, Job, je ne le lirai pas, on va manquer de temps, mais Job le fait également d'une façon très illustrée, très imagée, poétique, la question du Dieu qui est impliqué dès la conception. Hein. Ce n'est pas le fœtus, c'est ni l'embryon, on parle la zygote qu'on appelle. Hein, lorsque les 23 chromosomes du papa rencontrent les 23 chromosomes de ma mère et que c'est fécond, ça commence là. Tout le matériel, le bagage génétique est en place. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. C'est difficile aujourd'hui avec la question des infirmités, des défauts, etc., qu'on veut éliminer à travers justement les arrêts de grossesse pour ne pas avoir un enfant infirme. Mais Dieu, hein, l'Éternel qui dit à Moïse, hein, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel, hein, l'Éternel qui est en contrôle, même de ce qui semble défectueux. Et Jésus, hein, qui répond à cet aveugle-né, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Hein, l'erreur que vous autres vous voyez en lui, là, c'est Dieu la voulait, parce qu'il va permettre des choses grandioses, que vous puissiez voir tout cela. Alors, il se sert de ce que nous, on voit comme un défaut, hein, pour montrer sa puissance, démontrer sa gloire. Dieu est souverain malgré notre science. Hein, tu sais, nos manigances, hein, nous autres, on va en entendre parler. Hein, oui, mais la science, à cette heure, on contrôle des affaires. La contraception, la stérilisation, la fertilisation. Il y en a des moyens, là. Il y en a qui existent depuis longtemps, mais là, les technologies aujourd'hui, etc., c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Parce qu'il y en a qui... Tu sais, c'est comme... Hey, écoute, Dieu, il ne contrôle pas tant que ça, là. Il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui, là. Ha! Écoutez, on peut croire ce qu'on veut, là, mais moi, je m'accroche à cela. Acte 17, 25. « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Il n'a pas besoin de rien, puis il n'y a rien qui va le déjouer. Il sait ce qui se passe, il savait ce qui allait se développer. Même il permet à l'homme de franchir des frontières. Hein? Tu sais, la science, là, c'est un peu comme quand Pilate a demandé à Jésus, Jésus lui dit, je suis venu rendre hommage à la vérité. Et Pilate lui répond, oh, mais qu'est-ce que la vérité? Hein, moi, les premières fois, j'entendais ça, puis je ne sais pas. Je n'étais pas chrétien à l'époque, puis là, je me disais, hey, il l'a-tu plugué? La question philosophique, Jésus n'était pas capable d'y répondre. Il ne répond pas, il était muet. C'est parce que j'ai compris plus tard, hein, que, tu sais, dans le fond, c'est parce qu'il était, il est la vérité. Tu sais, il n'y avait pas de réponse à donner, c'est parce que, Pilate, la vérité, tu l'as en avant toi, en chair et en os. Là, les gens, des fois, qui parlent de science, ouais, mais la science, là, elle appartient-tu à l'homme? Hein? On peut leur répondre comme Pilate, oui, mais qu'est-ce que la science? La science. Hein? La science débute quand? Hein? La crainte de l'Éternel est le début, hein, de la science. La crainte de l'Éternel. Parce que toute science vient de lui. Nous autres, on est juste des observateurs, des manipulateurs de ce qui est déjà là. On n'a pas inventé la gravité. C'était là. Hein? On découvre, on fait des formules qui s'adapte à ce qui est déjà en place. Alors, être créé à l'image de Dieu, ça vient avec de grandes responsabilités. Et regardez ce que la parole dit. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Il y a plein de paroles du Seigneur. Moi, écoutez, regardez-le. Sauvez-les. Délivrez ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauvez-les. C'est pour dire que Dieu nous dit, là, c'est précieux ce que vous avez. C'est moi qui la donne. C'est moi qui contrôle cela. Alors, venez pas bousiller. Venez pas jouer là-dedans. Allez pas toucher à ça. Ça m'appartient. Ce qui est là, lui appartient. Il faut s'accrocher à ça. Sinon, on va se faire engourdir par le discours. Et c'est important de comprendre également, à mon opinion, que, vous savez, hein, c'est un endroit extraordinaire, hein, le ventre, la maman, il y a toute une biologie là, qui fait que le bébé est dans un endroit hyper sécuritaire. Il est isolé des maladies extérieures. Il est nourri 24 heures sur 24. À chaleur, c'est formidable. Mais l'autre réalité, c'est que cet endroit-là, sécuritaire, est devenu l'endroit le plus dangereux sur la planète Terre pour un bébé. Il est plus en sécurité presque sorti que lorsqu'il est là. Parce que on ne respecte pas ce que Dieu nous dit à cet égard. Regardez même au niveau de la loi, pas la loi d'aujourd'hui, la loi que Dieu a donnée aux hommes, à son peuple. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Voyez comment c'était sérieux, même pour la femme enceinte. Tu donneras vie pour vie. Et là, c'est un accident, là. C'est une querelle. Et puis, ça arrive, c'est comme pas prévu. C'est comme, tu sais, l'homicide involontaire, là. Mais il dit, s'il y a accident, nous autres, c'est plus des accidents, là. C'est prémédité, là. On s'en va, on fait la démarche, on s'en va s'inscrire, et puis, etc., etc. Il faut que je vous parle de l'Église, le travail de l'Église et de cet homme rapidement, M. John Barros, qui a passé 3 ans en avant d'une clinique d'avortement à Orlando, en Floride. Cet homme-là, souvent les gens disaient que c'est le plus grand pro-vie qui n'existe pas. Puis lui, il disait, je suis pas un pro-vie, il dit, je suis un passionné de Christ. Parce que si, il dit, ma passion, ma motivation était le mouvement pro-vie, il n'aurait pas resté là 7 jours par semaine, en avant de la clinique, à intercepter les clientes. En avant. Comme ça, il a fait ça pendant 3 ans, la clinique, au bout de 3 ans, a fermé. Il y a une 60aine de femmes par année qui s'arrêtaient et qui faisaient demi-tour. Et qui même, il y en avait qui acceptaient le Seigneur de par le témoignage du monsieur. Alors, peut-être que vous êtes appelés. Peut-être que vous avez un appel individuel à aller en avant du pavillon Saint-Joseph le vendredi après-midi avec un mégaphone sur le trottoir, et puis de dénoncer et d'encourager. Il savait qu'est-ce qui allait se passer. Il voulait éviter que ces femmes-là souffrent. Et c'est ça qu'il donne dans son témoignage. C'est extraordinaire. Mais peut-être que comme Église aussi, on peut avoir un effort. Il faut être conscient de qu'est-ce qui se passe. Et comme Église, il ne faut pas oublier la réalité du phénomène. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prier pour ceux qui souffrent. Parce qu'il y a l'angoisse, la détresse qui existe avant de passer au geste. Et il y a après, que nous, ce qui était dans le domaine de la relation d'aide, on appelle le syndrome post-avortement. Donc, prier pour ceux et celles qui souffrent, les couples. Prier pour ceux qui commettent l'irréparable, ceux qui sont impliqués. Hein, dans le processus médical, si on peut l'appeler ainsi. Soutenez la cause en temps, en ressources, en argent. Dites la vérité au monde. Dites-la simplement. Et puis, laissez à Dieu. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Laissons à Dieu agir dans les cœurs. Et on n'est pas là pour juger. On est là pour aider, pour soutenir. Dieu s'occupera du jugement, de la décision qui aurait été prise par rapport à la question d'une infirmité ou s'il y a eu un viol ou si la situation était que la mère était en danger de vie, tout ça. Dieu jugera ça. C'est pas à nous. Mais soyons conscients que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Dites que l'on veut aider selon les moyens disponibles. Alors, près de chez vous, il y a Option Conseil Grossesse. C'est un centre qui reçoit les femmes qui... se demandent si elles peuvent poursuivre la grossesse, quelles sont les options disponibles, et peut-être aller aussi vérifier ce qu'on leur a aussi dit dans les centres de santé. Et on encourage ces femmes à poursuivre leur grossesse et à les soutenir matériellement. Il y a quelques femmes ici à l'Assemblée qui s'impliquent au niveau de la friperie des vêtements de 0 à 6 ans, pour aider justement ces jeunes femmes qui peut-être n'ont pas les moyens. Des fois, c'est juste le fait de leur mentionner qu'on peut les aider d'une façon ou d'une autre et qui vont les encourager à poursuivre leur grossesse. Et il y a ces femmes qui souffrent du syndrome post-avortement où il y a des rencontres. On sait qu'elles sont nombreuses et on veut les rejoindre. Donc, moi, là, ce que je vous demande, là, c'est prier pour que ces femmes-là appel au centre. Vous savez, là, quand le comité, là, on se réunit puis qu'on prie, là, on a des appels les jours qui viennent. Si toutes les églises, si l'Église priait pour que des cœurs soient touchés et de les guider à la bonne place, guider à un endroit où ils vont recevoir un message de vérité et libérer, être libéré par le pardon. Vous savez, là, c'est C'est incroyable les témoignages qu'on entend et le poids sur la conscience que les femmes, les couples, hein, les papas aussi là-dedans, ils se sentent très coupables de ce qui est arrivé. Et le Seigneur, là, il a tout fait à la croix. Lui était là, le plus innocent. Tu sais, on parle des petits bébés, ils sont tous innocents, sans défense. Il n'y avait pas un être plus innocent que le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié, torturé, tué sur cette planète. Et lui, il l'a tout pris. Et puis, ce qu'il dit ce matin, c'est « Laissez-moi guérir. Laissez-moi guérir cette plaie qui est ouverte. » Évidemment, ça va toujours laisser une cicatrice. Hein? Les souvenirs vont toujours être là. Hein? On voit la cicatrice. Mais fermez la plaie, et le Seigneur va le faire. C'est le moyen le plus efficace. Et moi, je dirais que c'est la solution unique. La solution unique pour en arriver à un pardon, se sentir pardonné, libéré par la grâce de Dieu, accepter ce don gratuit. Le Seigneur vous invite à dire, écoute, c'est pardonnable, c'est difficile, mais c'est pardonnable. Et moi, je vous invite à accepter ce pardon-là pour vraiment avoir une libération, une guérison qui est complète. Et on a tous quelque chose à se faire pardonner. Tous. Donc, la grâce de Dieu est là pour cela. Pour nos iniquités, nos péchés, nos manquements. Le Seigneur est là, prêt à nous accueillir. Alors, j'ai demandé à Johan de préparer un chant pour terminer. Je pense que ce serait bien d'aller dans ce chant en justement pensant à ce pardon qui nous est offert gratuitement et en offrant justement ces souffrances, ce poids-là qui est sur nos épaules, que ce soit de l'avortement ou de tout autre geste de notre vie, des mauvais coups, des coups d'âme, présentez-le au Seigneur. Voyez ce chant-là comme une prière et une libération. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Merci de votre présence, votre attention.